transhumance.
Ce soir, la ville de Tébessa. Située au sud-est d'Alger, non loin de la frontière tunisienne, à environ 200 km à vol d'oiseau du littoral annabi, se dresse Tevest, Tébessa, avec ses colonnades, ses temples, ses basiliques et ses arcs de triomphe, dont l'arc de Caracalla est le plus célèbre. Son forum, situé en plein centre de la ville, nous renseigne sur l'importance que cette cité devait avoir durant l'Antiquité. Ses statues, ses inscriptions dédicatoires ou commémoratives, que l'on retrouve un peu partout, continuent malgré la main de l'homme à nous adresser leur message muet après plus de 2000 ans d'histoire. La région de Tébessa, qui possède l'un des plus importants patrimoines archéologiques datant de la période romaine, possède aussi un patrimoine concernant la période préhistorique, car elle conserve les traces des premiers peuples berbères, principalement dans l'Osmor, le Dir et le Mstiri. Elle fut un centre agricole important sous Massinissa. Avant de commencer notre histoire, je vous propose de visiter avec nous quelques sites. Et pour commencer, une des premières installations de la Légion romaine dans la région de Tébessa, sur les hauteurs de la ville actuelle, avant qu'elle s'édifie sur la plaine. Donc voici l'histoire du camp de la 3e Légion d'Auguste, du temps de l'empereur Vespasien.
La ville de Tébessa recèle de nombreux vestiges datant de l'installation romaine. Actuellement, nous nous trouvons à l'antique Tevest, Tébessa el-Khaliya, avec M. Mohamed Sherif Hossein, archéologue, et Mme Zinati Amel, documentaliste et amoureuse de l'archéologie. Alors, M. Mohamed Sherif Hossein, comme nous venons de dire il y a quelques secondes, nous nous trouvons en plein site. C'est romain, alors racontez-nous un peu l'historique de ce site.
Ben, ce site, c'était le camp de la 3e Légion d'Auguste. Après qu'elle s'était déplacée de Haïdara, s'était installée à Tunisie, ben, à l'an 71 ou 72 de notre ère, ils sont installés ici. C'était à l'époque de Vespasien, l'empereur Vespasien.
Alors, ils sont venus s'installer ici, dans la ville de Tébessa, pour plusieurs raisons.
Oui. L'une des raisons, c'est
l'agriculture.
C'est pour l'agriculture surtout. Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'elle est très riche. La terre, c'est fertile de cette région. Il y avait aussi c'est l'eau.
Beaucoup d'oliviers aussi, Mohamed.
Aussi. Surtout qu'on remarque les pressoirs à l'huile sont partout. Mm-hmm. Ben, ils vont exploiter cette richesse et faire de l'exporter vers l'Italie. C'est parce qu'à certaines époques, l'Italie a connu une agglomération démographique.
Disons un accroissement démographique, oui, qui a fait qu'elle a été obligée d'essayer de trouver d'autres ressources.
C'était dans l'alignement du premier limace, c'était du premier siècle, qu'ils ont...
Donc le Limès, c'est la limite, disons, sud que les Romains n'y occupaient.
Oui, oui.
Donc c'était une ligne qui traversait tout le territoire.
C'était la première ligne de Tell, qu'ils ont déplacé Haïdara, puis Tevest, puis Mascoula, Kouaïfa, Flavie, maintenant c'est Hmem Salhin, après Timgad, Tezult.
Alors, nous disions donc il y a quelques instants, c'est un site qui est un peu surélevé par rapport à la ville. C'était aussi une construction faite sur la défensive.
Oui, stratégique.
Oui, c'est un point stratégique. Ben, c'est qui culmine les plaines et aussi le montagne qui s'appelle l'environnante, c'est l'Ouzmor, pour contrôler les tribus rebelles de cette région à l'époque.
Qui étaient les Massiles ou...
c'était les morts et les musées la masse. C'était des Gétules qui se déplacent. Par...
On reviendra sur d'autres sites, Madame Zenadi Hamel. Je disais donc il y a quelques instants que vous étiez documentaliste et puis aussi amoureuse de l'archéologie. La ville de Tébessa est un musée ouvert.
Oui, c'est un musée à ciel ouvert. Pratiquement même la ville a été reconstruite sur des vestiges de l'époque romaine.
Oui. Alors, c'est une construction... aujourd'hui, c'est les vestiges. On devine presque la façon dont les Romains construisaient. Vous nous avez dit il y a quelques secondes que c'était en forme de trèfle. Est-ce que le trèfle était... dans la légende, il porte bonheur. Est-ce que ça signifie quelque chose à l'époque romaine?
En général, on remarque le trèfle surtout dans des vestiges chrétiens, ce qu'on appelle le baptistère.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on y trouve là? Il y a une presse.
Une petite basilique dans ce site.
Oui.
Une petite basilique. On trouve aussi.
Des thermes.
Un terme. Oui. Quelques constructions. C'est pour ce qu'on appelle les flamens, c'est les gens sacerdoces.
Oui.
C'est mal les prêtres.
C'est des prêtres. On remarque aussi un aqueduc qui
ramenait de l'eau
de Oued Sarij.
Mm-hmm. Oui.
Et les restes sont encore visibles.
Mm-hmm. Il y a des pressoirs à huile aussi.
Oui, il y a aussi une pressoire à l'huile qui est maintenant conservée avec ces deux bassins.
Donc Mohammed, à l'époque, c'était carrément une légion romaine qui habitait ici.
Oui.
Et tu me disais tout à l'heure qu'il vivait en famille.
Oui, c'était pour la troisième légion d'Auguste. Mm-hmm. C'est tout à fait normal qu'ils vont déplacer avec leur famille, mm-hmm. vont installer. Et après la fondation de la ville de Tevest, tout au nord-ouest, à 3 km d'ici, de l'antique Tevest, ils ont déplacé vers Mascoula, Zekhanchla.
Donc c'était le premier point de départ de l'expansion romaine dans la région.
Dans la région, oui. C'est le deuxième point du ralliement de l'Emas.
D'accord. Ah. Donc voilà, nous allons continuer notre visite guidée.
Suivons notre promenade archéologique. Là, nous sommes à l'intérieur de l'enceinte byzantine, en plein centre de la ville. Alors, nous sommes dans ce temple qui a une forme cubique. Hein. Après, vous nous direz que les formes aussi ont leur signification. Dites-nous qui était cette déesse Minerve. Et voilà.
La déesse Minerve, c'est une divinité dans la religion païenne. Comme Jupiter, Junon, d'autres déesses. Mais à l'origine, ce temple, c'est un temple de la triade capitoline. C'est Junon, Jupiter, Minerve. Mais ce n'est pas Minerve, c'est tout. À l'origine, c'était enceinté par une muraille. C'est le lieu sacré, à la période française, dès l'an 1800 et quelques. Après, c'était enfoui.
Oui.
Il ne reste que le temple ben, avec son naus et son pronaus.
Donc là, nous remarquons qu'au niveau du matériel archéologique, il y a plusieurs époques qui se trouvent réunies dans cette salle. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents matériels archéologiques qui se trouvent dans cette salle?
Oui, oui. Comme par exemple, vous avez de la céramique punique romaine. Vous avez aussi des stèles funéraires romaines. Vous avez des tables funéraires, ce qu'on appelle en archéologie le menza. Vous avez aussi des jarres. Il y a aussi un sarcophage en marbre, c'est impérial.
Là, on remarque aussi une espèce de jarre en bronze ou en cuivre dans le fond. Est-ce que c'était quoi à l'origine?
Allez-y. Elle devait servir à chauffer l'huile et s'en servir comme défense au niveau
pour ébouillanter les ennemis. Donc
voilà, c'est bien ça.
Alors, vous savez qu'en radio, il n'y a pas d'image, mais il y a tout cet imaginaire. Vous allez nous décrire un petit peu il y a de la poterie, comme nous venons de dire il y a quelques instants. Il y a beaucoup de gravures au niveau de pierres qui racontent un petit peu le mode de vie.
Nous avons d'abord des tapis de mosaïque qui représentent la déesse Neptune de la mer. Et des paquebots qui devaient transporter les vivres vers Rome. Nous voyons dessus des jarres, aussi un calendrier qui devait avoir une représentation peut-être mythique, romaine. Nous avons aussi des lampes à huile qui ont des gravures représentatrices de scènes de vie quotidienne et de toute catégorie de...
Alors les animaux sont aussi représentés dans la symbolique byzantine, romaine.
Oui, nous retrouvons beaucoup d'animaux familiers comme le taureau, le lynx, l'oiseau, la chouette qui est représentée au niveau du temple pour représenter la déesse Minerve.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de tous ces animaux qui ont une symbolique? Quand on voit le taureau, on se dit c'est la terre, c'est la fertilité, c'est le labeur. L'oiseau, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des animaux qui sont gravés?
Ben, à propos des animaux qui sont gravés en bas-relief, ils ont un rapport avec la religion païenne, comme la chouette, c'est symbole pour la déesse Minerve, la divinité Minerve.
Et aussi quelquefois des cultes agraires ou alors des symboles de fertilité, comme le taureau, le bélier. On retrouve cette figure un peu partout, Yanni, dans le bassin méditerranéen.
Comme exemple de déesse, vous avez ici la déesse Vénus. C'est déesse de l'amour et de la beauté, comme vous voyez.
Oui.
Ben, cette mosaïque, elle a rapport avec les jeux olympiades.
Oui.
Ouais. Surtout cette période de l'empereur Caracalla, ce qu'on appelle de la famille sévérienne, de Septime Sévère. C'était une période très riche en tout. Par exemple, nous avons ici des inscriptions qui mentionnent les jeux des théâtres, amphithéâtres dans Athéveste. Il y avait aussi un cirque.
On remarque un magnifique sarcophage. Mohamed, est-ce que tu peux nous dire à qui il appartenait?
On ne sait pas exactement à qui il appartenait, mais normalement, c'est pour...
Fait en marbre.
Oui, c'était fait en marbre. Mais normalement, c'était pour un homme...
Important.
Important, oui.
Un patricien.
Un patricien, oui.
Bien, on poursuit notre balade archéologique, puisqu'on va aller vers la muraille. Merci.
في السابق يا ماني خالك
Là, nous sommes sur la muraille de l'époque byzantine, avec 13 postes de contrôle. Alors, cette muraille qui fait partie de l'âme de la ville de Tébessa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus?
Est-ce que d'abord, Mohamed, on pourrait la dater? Quand elle a été construite approximativement?
Cette muraille a été construite à l'an 1644 par le général Solomon byzantin. C'était les flanqués de 14 tours. Trois entrées. Vous avez la porte dite porte de Caracalla, aussi la porte Chala et la porte de Solomon. Après, il y avait le sud de la porte de Sirta.
Donc, quand on parle de murailles, ça veut dire que la ville, elle était à l'intérieur. On a des petites, moi je vais dire fenêtres, hein, en plus des tours de contrôle.
Oui, des ouvertures, des meurtrières.
Il y a des meurtrières, oui. Voilà. Donc, c'était pour la ville était à l'intérieur de cette muraille.
Oui, la ville c'était à l'intérieur de cette muraille et la muraille c'était construite par les matériaux de construction de l'ancienne ville.
Alors monsieur Aza, vous êtes bouquiniste, juste en face de la muraille de Tébessa. Je disais donc que l'archéologie, vous n'en êtes pas spécialiste, mais vous êtes quand même sensible.
Bien sûr. On ne peut ne pas être sensible à ce qui nous entoure, à tant de beauté, parce que c'est beau. Les vestiges archéologiques de la ville de Tébessa sont très beaux, même s'ils sont mal gardés, s'ils sont mal gérés. Avant, dans la ville, on n'avait pas d'archéologue. Le monsieur, c'est le premier. Avant, c'était géré par quelqu'un qui n'était pas du métier. Quoiqu'il a bien sauvegardé certains trucs, il a bien fermé les portes. Il ne manque pas beaucoup de choses dans le musée de Tébessa. Mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion. Ou d'ailleurs, le public ne s'intéresse pas à ces choses-là.
Quel est, d'après vous, le rapport des Tébessis par rapport au patrimoine archéologique? Disons, puisque vous êtes un endroit stratégique, donc privilégié, est-ce qu'ils viennent visiter ou quel rapport ont-ils avec l'histoire et le patrimoine archéologique de manière générale?
Bon, je pourrais dire qu'aucun rapport n'existe. Les musées, il y a des gardiens qui sont là au niveau des musées. Ces gardiens-là chôment toute la journée. Ils ne passent pas une journée, je dirais plutôt une journée, ils ne peuvent même pas avoir un visiteur. Les gens ne s'intéressent pas. Bien sûr, il y a la conjoncture de crise actuelle qui font que les gens ne s'occupent d'autre chose. Mais il y a un chômage d'idées. Les gens, c'est dans la tête que ça se passe. Parce que s'il y avait une demande, il y aurait une offre. Les gens ne s'intéressent pas. Les gens préfèrent, je dirais que si vous voulez avoir une réelle idée des Tébessis par rapport à aux vestiges, vous n'allez qu'à voir l'Arc de Triomphe de Caracalla. Il pue. Et malgré nous, parce qu'avant j'étais dans une association de protection des sites, des vestiges historiques. On a demandé dans le temps, c'était en 1990, au Wali, de barrer la route, de fermer le passage sous l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est fermé aux véhicules pour qu'ils ne dérangent pas, parce que les vibrations risquent détruire l'arc.
Madame Zenadi Hamel, comme vient de poser la question Saïd, le rapport avec les vestiges et les femmes, est-ce qu'il y a un rapport mystique? Est-ce qu'on ne s'en approche pas? Est-ce qu'on en parle?
Dans la ville de Tébessa, il m'est rare de voir les femmes venir voir les musées et se documenter ou même se cultiver en regardant les objets archéologiques que nous exposons au public. À travers tout le territoire national, nous avons cette idée de ne pas trop s'approcher de ces, comment on dit en arabe, juhela. Ils peuvent lâcher leur mauvais esprit sur celui qui a une mauvaise intention ou n'importe quoi. Et c'est peut-être une autre façon de protéger ces vestiges.
Donc il y a des protecteurs invisibles.
Oui, effectivement.
À défaut de protecteurs rémunérés et salariés.
C'est peut-être les esprits de la ville qui, à travers ça, protègent ces vestiges.
Donc revenons à M. Aza. Dans le passé, Est-ce qu'il y avait par exemple des visites guidées ou il y avait un intérêt envers ces vestiges?
Bon, oui, il y avait des visites guidées, mais elles étaient plus politisées que culturelles, parce que c'était les FLN. C'était dans le cadre de la politique du FLN. Il a amené des gens qui n'avaient rien à voir avec, l'archéologie.
Non, mais au niveau du public, du grand public, au niveau scolaire, il n'y avait pas de visites guidées organisées pour...
Actuellement, il y a à Tébessa un professeur au niveau du lycée Melk Ben Nebi. Ce professeur, je n'ai pas envie de le citer, c'est un très bon professeur, un prof de français. Il ramène chaque jour, je dirais chaque semaine, toutes ses classes. Il rend visite au temple, à l'église, il fait le tour de la muraille, et il est en train de les instruire. Ses élèves viennent me voir, ils demandent des livres. On les oriente vers la bibliothèque municipale. Il y en a une, malheureusement, il y en a une. Cette bibliothèque, elle est tellement bourrée de livres que les livres pourrissent. Tébessa, c'est un cimetière. En matière culturelle, quoi que l'on dise, quoi que Tébessa a hébergé un salon, c'est un peu le cinquième.
Non, mais c'est un peu paradoxal, parce que bon, nous, on a été surpris concernant la richesse du patrimoine et toutes les époques qui se sont succédées ici. Il y a vraiment énormément de vestiges et de richesses.
Et énormément de sites. Oui. C'est ça, c'est que si l'on sait qu'au Massachusetts, il y a des ossements de l'homme de Indokara, c'est ça. Si l'on sait qu'il y a des travaux immenses qui ont été réalisés ici, que l'Algérie elle-même, je parle du côté public, ils ont investi des milliards, surtout du temps de Cheikh Rahmani. Cheikh Rahmani a investi des milliards pour dégager certains sites, pour embellir la ville. Tout ça pour une population qui s'en fout pas mal.
Est-ce que vous, Monsieur Azaz, c'est vrai que vous êtes dans un état aujourd'hui de désespoir. Est-ce que vous croyez à la Renaissance?
Non.
Enfin, il y a quand même certains signes qui commencent.
Certains signes, mais si l'on constate d'une vue générale, si le niveau actuel se dégrade de plus en plus, on se demande, par exemple, on avait une statue située à la PC. C'était dans un ex-jardin public. Bon, pour votre information, Tébessa, qui compte 140 000 habitants, n'a pas de jardin public. On n'a pas un coin où aller. Les enfants n'ont pas un endroit où jouer à Tébessa. C'est dans la rue qu'ils jouent, c'est dans les rues qu'ils jouent. C'est ça, Tébessa. Voilà. Inculquer à nos enfants l'amour du livre, c'est déjà leur inculquer l'amour de la culture. Parce que si jamais l'enfant regarde son père en train de lire, il va lire. S'il le voit en train de fumer, il va fumer. S'il le voit en train de faire du sport, il va faire du sport. S'il voit que son père voit la télévision uniquement, je ne suis pas contre la télévision, mais la télévision ne peut pas être tout. On ne peut pas trouver tout dans la télévision. Et les TBC devraient encore plus s'occuper de vestiges. Parce que, par exemple, il y a énormément d'inscriptions latines dans Tébessa. Le monsieur l'archéologue vous dira que c'est très facile à traduire parce que c'est déjà traduit. Les traductions existent. Pourquoi ne pas traduire ça en arabe et en français pour que nos gosses sachent à qui ils ont affaire? Comme ça, que ça me cache abstrait devant eux. Parce que normalement, c'est pas difficile.
Après cette petite visite au cœur de l'antique Téveste, qui nous a permis de comprendre la situation dans laquelle se trouvent les sites historiques et archéologiques, et pour mieux cerner l'histoire se rattachant à cette ville et l'importance qui était la sienne à l'échelle de l'Afrique du Nord, nous allons poursuivre avec M. Youssfi notre voyage à l'intérieur de cette histoire. Donc ce soir avec nous Monsieur Youssfi El-Hadi, qui est inspecteur dans l'enseignement, auteur d'un CD-ROM sur l'histoire de Tébessa, donc un passionné d'histoire. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il est possible de nous donner un aperçu, un survol rapide de l'histoire de Tébessa, avec les principales périodes et les faits marquants concernant cette ville?
Bonsoir. De tout temps, l'histoire de la ville de Tébessa a été sujet à polémique. c'est toujours controversé, c'est toujours passionné. Et à chaque fois que l'on avance dans l'histoire de Tébessa, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et en l'absence d'un travail scientifique rigoureux, il y a toujours cette controverse et cette polémique. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tébessa a marqué l'histoire déjà dès la période du paléolithique inférieur, hein, donc il y a 1 million d'années, jusqu'à l'époque contemporaine. Tébessa n'a jamais cessé de marquer l'histoire et n'a jamais cessé d'être présente, quel que soit l'événement et quelle que soit l'époque.
Donc, commençons par la période préhistorique. Au niveau de la datation, à quelle époque on peut parler de présence humaine dans la région ?
On peut déjà, suite à une datation au carbone 14, on peut déjà parler de 6800 avant Jésus-Christ. Et cette datation s'est faite sur des débris de pierre, donc de l'époque paléolithique inférieure, près de Bir el-Atr, d'où une fausse dénomination de civilisation atérienne.
C'est relatif. Et pourquoi fausse, à votre avis ?
Oui, parce que tout simplement, il n'y a pas une civilisation propre appelée atérienne. Et c'est parce qu'on a trouvé ces vestiges-là près de la ville actuelle de Bir el-Atr qu'on a attribué cette civilisation à la civilisation atérienne.
Donc, selon vous, ce qu'on appelle, entre guillemets, la civilisation atérienne était probablement originaire d'une autre région.
Voilà,
d'une autre région. Et qu'elle est venue au niveau de l'industrie lithique, peut-être c'était un centre privilégié.
Oui.
Donc,
oui.
C'est cette hypothèse que vous défendez.
C'est une hypothèse qui se tient. Parce que l'histoire n'a pas cité, en dehors de cette région-là, en dehors de cette période-là, n'a pas cité vraiment cette civilisation dite atérienne.
Oui, quand on imagine aussi l'époque préhistorique, le mouvement des populations, les transhumants, c'est vrai que c'est...
La deuxième datation remonte à 6100 et renvoie à l'homme caspien. Et ce, dans le périmètre de la ville actuelle de Tébessa, je cite Rafana, Lmerja et Lazawiya. Pour les gens qui connaissent, c'est à quelques centaines de mètres, au pire des cas, à 1 km du centre de la ville de Tébessa. Et là, on a retrouvé, par exemple, des récipients, des bijoux, des outils en pierre, des poteries décorées. On a même retrouvé des restes de cendrières et d'escargotières. On en a dénombré à peu près 42.
Donc là, c'est le paléolithique moyen.
Moyen, oui. Donc, ce qui fait que ça remonte déjà à cette époque-là. Donc, les dernières datations donc, retenues au carbone 14, c'est 6800 avant Jésus-Christ. Et la deuxième datation, c'est 6100.
Oui.
Ce sont les deux dates qu'on peut retenir déjà.
Très bien. Donc, on continue notre avancée dans le temps. La période, disons, l'Antiquité. Par où on pourrait commencer ? La période phénicienne, disons, la date la plus marquante ?
Oui, pour la période phénicienne, notons au départ que c'est une période qui n'a pas vraiment marqué la ville de Tébessa au niveau du déroulement de son histoire. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça remonte jusqu'à 146 avant Jésus-Christ, on a noté cette présence phénicienne. Mais ce n'est pas une présence vraiment marquante.
Disons, ce n'était pas un peuplement ou là.
C'était beaucoup
plutôt
plus
caractère commercial.
Voilà. Des colonies.
Oui.
Et ça a un tout petit peu tourné vers le fait de chercher à chaque fois un comptoir commercial qui va permettre justement d'atteindre Carthage.
Est-ce qu'à l'époque, les Phéniciens considéraient Théveste comme un comptoir et aussi une région peut-être où ils récoltaient certaines matières premières, je fais allusion peut-être à l'huile d'olive, les céréales.
Oui, avant tout l'eau, parce que c'est une région qui est réputée donc, où il y a beaucoup d'eau.
Oui,
donc,
énormément de sources.
Énormément de sources. Mmh. Ensuite, tout ce qui est blé. Hein? Et ensuite l'huile d'olive et les Romains aussi en ont profité parce que la construction d'une huilerie très très disons gigantesque du côté de Berzgen à peu près 40 km à l'est de la ville de Tébessa, nous avons encore les vestiges de cette huilerie de Berzgen.
Important.
C'était
carrément
important.
Une industrie oléicole.
Voilà.
Oui.
Il n'y a pas que celle de Berzgen. Il y en a plusieurs, mais celle qui reste actuellement protégée par une culture, par une clôture récente, on retrouve celle de Bresgen. Et même, on peut même retrouver des restes d'arbres brûlés, calcinés, etc.
Là, je fais une petite, disons, digression. Mm-hmm. Parce que, bon, c'est vrai, si on prend le caractère agricole de la région, c'était, il semble, d'après ce que, qu'on a eu comme information, il semblerait qu'il y avait à l'époque des oliviers à perte de vue et qu'aujourd'hui, on n'en retrouve aucun. C'est un peu paradoxal.
Oui. Ce qui a justement causé la disparition de toute cette richesse naturelle, c'est, on va peut-être en parler, c'est après le passage des Vandales et des Byzantins. Donc ce qui fait que les guerres, surtout les guerres puniques, ont tout effacé ou presque. Et actuellement, il n'en reste absolument rien, justement, de cette agriculture réputée pendant des siècles et des siècles.
Très bien. Donc, concernant la période phénicienne, c'est vrai qu'au niveau géographique, disons qu'il y a une espèce de corridor qui va de Tébessa à Carthage. Oui. On se rencontre, si on prend simplement une carte, même au niveau physique, géographique, on voit qu'il y avait quand même un espèce de corridor qui permettait de... Peut-être un vol d'oiseau, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme 600 km ou peut-être un peu moins.
Un peu moins. Et cette proximité aussi donc, d'autres comptoirs, disons commerciaux, l'Italie disons, et toute la région, ce qui a fait que Tébessa a toujours été convoitée justement, et les Phéniciens l'ont choisi comme comptoir, justement pour véhiculer et pour justement commercer avec le reste du monde.
Donc le caractère principal qu'on peut retenir des Phéniciens, c'était le commerce, le cabotage. Bon, je pense qu'ils avaient des comptoirs pratiquement tout le long de la côte méditerranéenne.
Oui.
La période romaine.
Oui, la période romaine, les historiens l'ont qualifiée de l'époque de l'épanouissement de la ville de Tébessa. Et en effet, sous le règne de Romain, la ville de Tébessa, donc l'Antiquité Veste, s'est vue prospérer et prendre de l'ampleur. Et c'est surtout sous le règne de Septime Sévère et de son fils Caracalla, donc 193-217, que la ville de Tébessa s'est vue propulsée au rang de colonie, puis de légat romain, c'est-à-dire représentant direct de l'empereur. D'où donc l'importance de la ville de Tébessa. Et cette, prospérité et le prolongement du règne des Flaviens, une famille de
patriciens,
de la noblesse qui a pris justement l'essor de la ville de Tébessa en main et qui a justement favorisé la prise en main de cette ville par Septime Sévère et par Caracalla. Et la ville de Tébessa doit beaucoup justement aux Flaviens.
Donc ils ont été d'un apport dans quel domaine, entre autres l'aménagement de la ville,
l'agriculture, l'eau surtout, avec l'amener d'eau
d'un aqueduc.
Il y avait trois aqueducs, celui de Ouedzarour, celui de la Zawiya et un autre à ciel ouvert qui venait du Oued Mizeb. Et il en reste actuellement quelques vestiges, quelques traces de ces aqueducs à ciel ouvert du Oued Mizeb.
Et il semblerait qu'à l'époque, donc, il y avait au niveau de Téveste une université importante.
Oui, apparemment, mais concrètement, nous n'avons pas une preuve tangible qui pourrait nous pousser à dire que ça existait. Mais ce qui est sûr, c'est que la ville de Tébessa avait une ampleur telle que, par exemple, on dénombrait à peu près 50 000 citoyens. On avait
quand même une agglomération importante.
On avait un amphithéâtre de 7000 places. Et ces 7000 places, c'est très significatif quant à cette grandeur justement de la ville. Et c'est sous le règne justement de Caracalla que les citoyens de la ville de Tébessa ont obtenu cette citoyenneté romaine. Avant, non. Avant Caracalla, non. Il y avait les citoyens romains et il y avait le reste.
Ils sont les citoyens de seconde zone.
Voilà. C'est avec Caracalla, justement, que les habitants de la ville de Tébessa ont obtenu cette citoyenneté romaine.
Et est-ce que vous avez une idée sur le caractère de Caracalla? Il semblerait que, d'après certains historiens, il était un
sanguinaire. Oui, il était, disons, à cheval sur un certain nombre de principes. Mmh. Entre autres, la contribution en matière d'argent, hein, la collecte d'argent, d'impôts.
L'impôt.
Hein, et il était redevable justement à l'Empire romain et il était intransigeant surtout sur ce point-là. Et ceux qui ne payaient pas subissaient un tout petit peu les conséquences.
Comme on disait à l'époque.
Mais ce qu'il y a à retenir pour Caracalla, c'est que c'est le premier à avoir donné justement cette notion de citoyenneté aux habitants de la ville de Tébessa. Et ça, c'est très important.
Et les rapports avec les populations locales, est-ce qu'il y avait quand même des révoltes ou c'était le calme plat? Quels étaient les rapports?
Disons, c'était presque le calme plat. C'est après justement le règne de Caracalla, avec la venue des Gordiens. C'est une autre famille de nobles romains. C'est avec les Gordiens que justement les choses ont commencé un tout petit peu à tourner au vinaigre, comme on dit. Mmh. Et il y a eu quelques révoltes. Et c'est ce qui a justement cautionné le déclin de la présence romaine au niveau de la ville de Tébessa. Mais du temps de Caracalla, les choses allaient bien.
Disons qu'il y avait un semblant de statu quo.
Oui. Mmh. Et l'élément le plus frappant, qui justement prouvait à l'époque la prospérité de la ville, c'est l'Arc de Triomphe qu'on a érigé justement à la gloire de Caracalla. C'est un, disons, c'est quelque chose de majestueux, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Et c'est la fierté un tout petit peu de tous les Tébessiens, mm-hmm. dans la mesure où c'est un chef-d'œuvre, disons, architectural unique au monde.
C'est vrai.
Hein, c'est un quadrifrant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'actuelle muraille, c'est une muraille byzantine. Et la porte de Caracalla laisse supposer, parce que c'est un quadrifrant, qu'il était au centre de la ville.
Pour plus de précision à l'intention de nos auditeurs, un quadrifrant, c'est quoi?
C'est-à-dire avec quatre entrées séparées.
Donc quatre tours de guet.
Voilà. Ce qui fait que, et c'est ce qui laisse supposer les architectes, les connaisseurs, qu'il ne s'agissait pas d'un élément architectural qui fait partie d'une muraille. Mmh. Mais c'est un élément architectural qui devait se trouver au centre d'une place.
D'accord. Donc maintenant, après ces faits historiques, on peut parler de la période concernant le déclin.
Oui, ce qui a vraiment précipité justement ce déclin, c'est l'avènement du christianisme. Mmh. Et ce sont les luttes religieuses justement entre païens et chrétiens qui ont affaibli les Gordiens. Mmh. Et ces guerres, ces luttes, disons, intestines, ont précipité un tout petit peu donc le déclin de l'Empire romain et le règne surtout de Caracalla et des Gordiens juste après lui. Et c'est ce qui a jeté justement les villes dans les bras des Vandales après 429. Et les luttes religieuses se sont poursuivies jusqu'à l'an 508 de notre ère. Donc ce qui fait que ça a commencé avec les Romains. Mmh. Ce qui a poussé la ville justement dans les bras des Vandales, et ça a continué jusqu'à l'an donc 508 de notre ère. Donc ce sont ces luttes justement entre païens et chrétiens qui a un tout petit peu précipité le déclin de l'Empire romain au niveau de la ville et de la présence des Romains au niveau de la ville de Tébessa.
Donc nous poursuivons notre transhumance dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a succédé à ce déclin?
Les Vandales, ce sont les Vandales qui, à partir déjà de 429, c'est un peuple donc germain établi en Andalousie, passant donc le détroit de Gibraltar, et 10 ans après vont arriver à Carthage, en passant bien sûr par Tébessa en 443. Donc, ce qui fait que juste après les Romains, il y a eu un petit moment de passage à vide. Et juste après, ce sont les Vandales qui sont arrivés, qui sont là.
Donc, les Vandales, ces fameux Vandales, tout le monde en parle. Bon, il semblerait que leur passage ou leur petite installation dans certaines régions d'Algérie a duré environ un siècle.
Oui.
Et
ça n'a pas été aussi négatif
voilà,
qu'on le croit.
Voilà, c'est ça. Bon, il y a peut-être une question
ça
un
n'a
peu
pas
qui
été,
me...
Non. Non. Justement, arrivés à Tébessa, ils ont trouvé que la ville est prospère. Et il y va de leur intérêt à ce que cette prospérité-là continue. Et ils ont amené avec eux de nouvelles techniques, surtout au niveau de l'agriculture, pour renforcer justement ce patrimoine-là agricole. Et pour justement garder, pour préserver ce patrimoine-là, ils ont initié les autochtones à de nouvelles pratiques, surtout au niveau de l'agriculture. Et ils ont continué à commercer. Et ce qu'il y a de négatif justement dans leur présence, c'est qu'ils ne s'occupaient que du commerce. Et ils ont oublié de faire prospérer justement la ville comme au temps des Romains. Mmh. Ils ne s'occupaient que du commerce. Ils ne s'occupaient que de fluctuer leur capital commerce. Mais ils ont oublié un tout petit peu qu'il y a une ville qui vit, qu'il y a une ville qu'il faut prendre en charge.
Administrer.
Et depuis, la ville de Tébessa n'a pas pris d'ampleur. Elle est restée comme elle était juste après le déclin de l'Empire.
Mais là, c'est un peu la question qu'on peut se poser concernant tous les régions ou des endroits où ils se sont implantés. Et c'est vraiment une énigme. Pourquoi ça n'a duré qu'un siècle après? Il semblerait qu'ils se sont carrément volatilisés. Ou... Là, il y a quand même une énigme concernant les Vandales.
Oui, et ce qui s'est vraiment passé pour les Romains, ce qui a favorisé la venue des Vandales, c'est exactement reproduit pour les Vandales. Mmh. Hein? Et il y a eu des guerres, surtout des guerres intestines. Les autochtones, les berbères, ont essayé un tout petit peu de reprendre en main leur sort. Et ce sont ces guerres-là qui ont encore une fois jeté la ville de Tébessa dans les bras des Byzantins. Ce qui fait que c'est un juste retour des choses pour les Vandales. Et vu qu'ils n'ont pas pris en charge justement la prospérité de la ville, leur passage a été vraiment...
Il y avait peut-être aussi une opposition entre leur paganisme et la religion chrétienne naissante.
Oui,
il y avait,
oui. C'est peut-être nous avons dit que justement ces guerres-là est un élément important. Et ça a continué. Ça a pris naissance avec les Romains, mais ça a continué encore avec les Vandales.
Mmh. Très bien.
Après, en 533, c'est l'arrivée des Byzantins. Mmh. C'est juste après donc, le déclin des Vandales, après les guerres, etc. C'est la venue des Byzantins. Et il y a l'empereur Justinien, justement, qui rêvant sans doute de reconstituer l'ancien empire de César. Hein? Il rêvait, il voulait avoir le même empire que César. Une expédition fut décidée en mars 534.
Donc les Byzantins, disons que l'origine de leur expansion vers cette région venait d'où? De la Byzance de l'époque, enfin l'Anatolie, la Turquie actuelle.
Et on supposait aussi que aussi du côté de la Mauritanie, du côté de l'Éthiopie, il y avait une présence donc byzantine.
Donc,
et ça a convergé des deux côtés vers justement ce que nous appelons actuellement le Maghreb arabe et en ce qui nous concerne la ville de Tébessa.
Parce que bon, même sur le plan, disons, religieux, il y a aussi peut-être un événement qui se superpose à l'histoire. C'est aussi, il y avait, je pense, entre les églises romaines. Ou ce qui deviendra plus tard la papauté, une lutte âpre pour le leadership religieux entre l'église byzantine et l'église romaine.
Oui.
Donc, est-ce qu'il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Est-ce que c'est plutôt des raisons politiques qui ont fait que les Byzantins ont commencé à envahir la... Disons l'espace chrétien, parce qu'il y avait quand même
les deux. Il y avait les deux. Il y avait une certaine vacation des lieux.
Hein? Oui.
Donc c'est une terre à prendre, premièrement. Et deuxièmement, il y avait justement cet antagonisme entre chrétiens de Rome et chrétiens de...
D'Orient. Oui, enfin, à l'origine.
Oui.
Ils sont tous d'Orient, mais disons que...
Voilà. Et Justinien voulait justement le même empire que celui de César.
Et il y avait aussi une opposition féroce concernant même le dogme chrétien.
Chrétien.
Dans la conception, disons, du dogme en lui-même.
Je pense, oui. Mais à ma connaissance, moi personnellement, je ne me suis pas occupé de cet aspect-là. Donc ce qui fait que, pour moi, il y a un flou que je n'ai pas pu, faute de temps, faute de moyens, que je n'ai pas pu prendre en charge. Mmh. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que justement, c'est cette vacation des terres, cette terre à prendre, qui a beaucoup plus cautionné la venue des Byzantins. Mmh.
Donc après les Byzantins, quand même, qui ont, au niveau culturel, patrimoine archéologique.
Sur le plan archéologie, nous avons des restes de leur passage. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que même les Byzantins ont perpétué les mêmes pratiques vandales, surtout vis-à-vis de la population autochtone.
Disons que c'était le conquérant.
C'était le conquérant beaucoup plus. Et on a donné le sort de la ville de Tébessa à un eunuque qu'on appelle Solomon. Mm-hmm. Hein, et avec lui, les massacres, les tortures, les impôts qu'on prélève par la force ont continué.
Donc c'était une histoire tourmentée. Quoi.
Tourmentée. Mm-hmm. Et c'est ce qui a poussé justement les autochtones, une fois de plus,
à se révolter.
Et Solomon a été tué dans des conditions un tout petit peu douteuses. Et pour l'histoire, la basilique de Tébessa a été érigée en bagne par Solomon.
La basilique Sainte-Crispine.
Sainte-Crispine, oui. Attribuée à Sainte-Crispine. Mais finalement, puisqu'il y avait une basilique, à qui elle attribuait, on n'a pas trouvé. Et Sainte-Crispine était là pour... Et on a attribué cette basilique-là à Sainte-Crispine. Mais on n'a pas vraiment de preuves que vraiment cette basilique-là est...
Oui, mais le personnage historique de Sainte-Crispine a existé.
A existé, oui. A existé.
Très bien. Donc après, c'est la période musulmane ou...
Bien avant, qu'il y a à signaler, c'est la muraille byzantine qui fut construite en 539 justement par Solomon. C'est pour justement renforcer les fortifications de la ville. Mmh. Ce qui prouve qu'il est venu en conquérant, il n'est pas venu pour autre chose.
Pas.
Et c'est une muraille qui est ponctuée par 14 tours de garde avec des chemins de ronde. Mmh. Ce qui laisse, supposer qu'il est venu beaucoup plus pour guerroyer, pour conquérir, que pour autre chose. Et c'est l'avènement justement de l'islam vers le milieu du 7e siècle qui a un tout petit peu bousculé le règne byzantin.
Précisément vers 600 et combien ?
Je ne sais pas, mais... C'est en 647, je pense.
Oui, c'est ça. Hein? Donc,
c'est juste après 647. Oui. C'est après l'occupation de Sbit, là, en Tunisie. C'est Pitula, je pense, en dénomination latine ancienne. Sbit, là, actuelle Tunisie. Et on supposait que Sbit, là aussi, faisait partie du règne de Caracalla à l'époque. Mm-hmm. Donc, Sbit, là, appartenait, justement, était annexé à la ville de Tébessa du règne de Septime Sévère et de Caracalla. Mm-hmm. Donc c'est après la prise donc, de Sbit là, en 647 que les portes étaient vraiment ouvertes vers Tébessa en ce qui concerne donc, la présence musulmane.
Et selon vous, comment s'est passée ou s'est déroulée cette pénétration musulmane? Parce que bon, là, il y a encore des points
de
vue
divergents. On disait qu'il y avait peu de résistance. On disait qu'il y avait peu de résistance. Et la seule résistance vraiment, qui était vraiment marquante à cette époque-là, c'était la résistance de Kahina.
Oui.
Qui a opposé une farouche résistance à Hassan ibn Nu'man. Et on disait que c'était la première à avoir instauré ce qu'on appelle actuellement la stratégie de la terre brûlée.
Oui, enfin,
c'est une politique de la terre brûlée qui a été reconduite par les Français aussi juste après l'occupation française. Mm-hmm. Et Disons que cette opposition Cheftain Berber Kahina et Hassan ibn Nu'man a été un tout petit peu galvaudée. On a tissé autour et c'est devenu beaucoup plus un mythe qu'une vérité d'ordre historique.
Bon, concernant la Kahina, est-ce qu'on peut parler de deux périodes? La période non islamique et la période à laquelle elle s'est islamisée. Oui, alors là aussi, il y a deux...
Oui, mais c'est encore controversé.
Est-ce qu'elle a embrassé l'islam? Où elle est restée,
à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Donc, il y a plusieurs lectures, mais à ma connaissance, non. Elle a opposé une farouche résistance et on pense que c'est ce qui a un tout petit peu retardé les musulmans pour arriver jusqu'à à d'autres contrées, les Aurès, etc. Et c'est justement grâce à Al-Kahina que, disons grâce, ou que l'islam n'a pas pu donc avancer en temps opportun vers d'autres contrées. Mm-hmm. On a supposé que c'est cette farouche résistance-là qui les a un tout petit peu gênés dans leur progression.
Et donc, concernant sa mort... Alors là, il semblerait qu'elle soit morte dans la région de Bir el-Atr.
De Bir el-Atr. On a raconté que, mais reste à vérifier, mm-hmm. qu'elle n'a pas voulu se faire prendre. Et elle s'est d'elle-même emprisonnée dans un puits et elle s'est laissée mourir. Et c'est pourquoi on l'appelle maintenant Bir el-Kahina. Mm-hmm. Bir el-Kahina. Et la dénomination Bir el-Atr, on a tissé un tout petit peu sur la dénomination Bir el-Atr. En arabe, on dit Bir el-Atr. Bir el-Atr, c'est-à-dire le puits des parfums. Voilà. Ensuite, par une déformation d'ordre phonétique, ça a donné Bir el-Atr. On a supposé que, justement, dans son isolement, elle avait pensé justement à l'islam et elle avait trouvé qu'elle a opposé une opposition justement à l'islam, alors qu'elle savait au fond d'elle-même qu'elle n'avait pas, qu'elle avait tort. Et c'est pourquoi beaucoup disent qu'elle s'est reconvertie à l'islam. Mais puisqu'elle est toute seule, personne ne pouvait le vérifier. Et à sa mort, à sa décomposition, puisqu'elle a épousé donc l'islam, il y avait un parfum qui sortait justement du puits. Mmh. Et les passants sentaient justement ce parfum. Et Bir el-Atr, Bir el-Atr. Et maintenant, on l'appelle Bir el-Atr.
Donc, d'où, il y a une interprétation.
Voilà. Et c'est beaucoup plus proche du mythe que de la réalité. Et jusqu'à présent, on polémique encore sur cette fameuse histoire de Cheftain Berber qu'on appelle Kahina.
Concernant de manière globale l'histoire de Teveste, Tebessa, avec l'extraordinaire richesse des sites, encore une fois archéologiques, est-ce que concernant les fouilles, un travail d'investigation sérieux qui fait appel à quand même une certaine pluridisciplinarité n'a pas encore été pris en main? Parce qu'on... On a appris que pratiquement depuis très longtemps, cette dimension avait été un peu laissée.
Oui, c'est toujours accidentel. À chaque fois qu'on découvre un site, c'est toujours accidentel. On veut construire, on veut bâtir, les fouilles, et on retrouve des vestiges. Il n'y a pas un travail de fond scientifique, comme vous dites, multidisciplinaire, parce qu'à chaque fois que l'on essaye de faire des fondations, on retrouve ces vestiges-là. On retrouve des débris de poterie, on retrouve des bijoux, on retrouve des armes, on retrouve donc... Mais à ma connaissance, la dernière étude vraiment sérieuse, comme je vous le disais tout à l'heure, remonte à 1954. Et c'est une étude qui a été menée par l'ancien conservateur du musée de la ville de Tebessa.
Donc tout reste à faire.
Tout reste à faire. Tout reste à faire.
Un dernier mot,
je tiens à rappeler que par exemple pour les nombreux sites que l'on peut visiter au niveau de la ville de Tebessa et qui dénotent de la richesse de la ville sur le plan historique, à titre d'exemple, il y en a beaucoup. Je pourrais citer Louanza, Castel, Boukhadra, Morsot, El Kouif, Boulhafdir, Bekeria, El Hammamat, Tezbent, El Malabid, Gissas, Bir el-Atr, etc. Donc autant de sites que l'on peut visiter et qui restent encore ouverts justement à la recherche.
Donc profitez-en pour lancer un appel aux...
Justement, on fait appel justement aux spécialistes, surtout au niveau de l'université de Constantine, parce que c'est pas loin, mm-hmm. D'organiser peut-être des séminaires pour les étudiants en archéologie, mm-hmm. des stages sur le terrain, mm-hmm. parce que Tébessa, c'est le lieu propice justement à pareille investigation et à pareil stage.
Une région très privilégiée. Vraiment, j'ai été surpris, encore une fois, de la richesse du patrimoine existant.
Oui.
Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Monsieur Youssoufi, oui. nous vous remercions.
Je vous remercie de nous avoir justement donné cette opportunité de parler d'une ville que nous aimons tous. Mm-hmm. Merci.
Ainsi se termine la première heure de Transhumance. Après le flash de minuit, nous tenterons d'apporter quelques éclairages nouveaux concernant précisément l'histoire de la Kahina, en compagnie de M. Mohamed Chebouki, que nous avons rencontré dans la ville de Chréa.